Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast Ninartri. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Ces femmes qui pensent trop de Suzanne Nolan Hoxema est un ouvrage de psychologie appliquée et de développement personnel centré sur la rumination mentale. Souvent décrite par le terme overthinking, professeur de psychologie. Elle, auteur, a s'appuie sur des connaissances issues de la recherche et sur des situations courantes pour expliquer pourquoi certaines personnes, et particulièrement beaucoup de femmes, se retrouvent piégées dans des boucles de pensées négatives. Le livre décrit comment ce fonctionnement peut alimenter l'anxiété, la tristesse, la colère, la démotivation et, chez certaines, contribuer à la dépression. Son objectif est double. D'une part, rendre le mécanisme intelligible afin de déculpabiliser et de nommer ce qui se passe dans la tête quand on ressasse. D'autre part, proposer des pistes concrètes pour interrompre ces cycles, reprendre la main sur l'attention et retrouver une vie plus stable émotionnellement. Le ton se veut accessible, pragmatique et orienté vers le changement au quotidien. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, comprendre la rumination et ses effets sur l'humeur, le point de départ du livre consiste à distinguer le fait de réfléchir utilement du fait de ruminer. La rumination correspond à un retour répétitif sur des événements, des inquiétudes et des émotions pénibles, sans progression réelle vers une solution. Elle, auteur, montre comment ce mode de pensée se nourrit de questions tournant en rond et de scénarios négatifs. Et pourquoi il donne impression trompeuse de mieux comprendre alors qu'il épuise, en restant focalisé sur ce qui va mal. La personne renforce la salience des souvenirs et interprétations défavorables, ce qui peut accentuer la tristesse, elle anxiété ou elle irritabilité. Le livre insiste aussi sur le co-cognitif. La concentration diminue, les décisions deviennent plus difficiles et l'énergie disponible pour agir se réduit. Cette dynamique peut créer un cercle vicieux où, à l'absence d'aide d'action ou de soulagement alimente encore davantage les pensées envahissantes. En clarifiant ce mécanisme, l'auteur aide à repérer les signaux précoces, comme insomnie liée aux pensées en boucle ou incapacité à profiter d'activités simples. Et à comprendre que le problème vient moins des pensées isolées que du processus répétitif « REMUM ». Deuxièmement, pourquoi tant de femmes se reconnaissent dans le profil hyperpenseuse, le livre met en avant une réalité fréquemment rapportée. De nombreuses femmes décrivent une tendance à analyser longtemps les relations, les erreurs perçues, les conflits ou les inquiétudes quotidiennes. Sans réduire la question à une cause unique, l'auteur relie cette fréquence à des facteurs de socialisation et de rôles attendus, ainsi que à des pressions spécifiques. Quand on se sent responsable du bien-être des autres, de harmonie relationnelle ou de la performance sur plusieurs fronts. Le mental peut rester en alerte et chercher à anticiper. Cette anticipation permanente ressemble à de la préparation, mais se transforme facilement en rumination. Le livre souligne aussi que la rumination peut devenir une réponse apprise face au stress, notamment lorsqu'on a peu de marge de contrôle sur une situation. Elle sert alors à donner une impression de maîtrise, tout en maintenant la personne dans inquiétude. En mettant des mots sur ce vécu, l'auteur propose un cadre qui déculpabilise. Penser trop ne signifie pas être faible ou irrationnel, mais être prise dans un mode de régulation émotionnelle inefficace. Cette compréhension ouvre la voie à des changements ciblés, centrés sur l'attention, à l'action et des stratégies alternatives pour apaiser l'humeur. Troisièmement, rompre le cycle en revenant au concret et à l'action. Une idée directrice du livre est que la rumination prospère dans l'abstrait. Plus on reste dans des pourquoi et des si seulement, plus la pensée tourne sans déboucher. L'auteur encourage donc un basculement vers le concret. Cela peut passer par identification de petites actions réalistes, plutôt que la recherche d'une solution parfaite. Quand l'action est possible, même minime, elle redonne un sentiment d'efficacité et réduit l'espace disponible pour les scénarios catastrophes. Quand l'action directe est impossible, l'ouvrage met l'accent sur des alternatives de régulation, comme changer de tâche, structurer son temps, ou se reconnecter à des activités qui mobilisent l'attention. L'idée n'est pas de fuir ses problèmes, mais de sortir d'eux un traitement mental qui entretient la détresse. Le livre valorise également la résolution de problèmes de façon pragmatique. Clarifier le problème, générer des options, choisir une étape, puis évaluer. Cette démarche simple s'oppose au ressassement qui confond analyse et immobilité, en ramenant la lectrice vers des comportements observables et des choix concrets. L'auteur propose une voie pour reprendre le contrôle de sa journée, de sa motivation et de sa confiance. Quatrièmement, reprendre la main sur l'attention et interrompre les pensées intrusives, le livre s'intéresse à la question centrale de l'attention. Une partie de la souffrance liée à l'overthinking vient du sentiment de ne pas pouvoir arrêter le flux. L'auteur propose de travailler sur l'interruption des boucles en reconnaissant rapidement le moment où la pensée devient répétitive et stérile. Plutôt que de lutter longtemps contre le contenu mental, l'approche consiste à modifier le processus. Déplacer volontairement l'attention vers un autre point d'ancrage, revenir à une activité ou utiliser des routines de recentrage permet de ne pas alimenter la spirale. Le livre insiste sur l'importance de l'entraînement, car l'attention est une compétence. Il est aussi question de l'influence de l'environnement. Certaines habitudes, comme s'isoler avec ses pensées ou rester inactive quand l'humeur baisse, rendent la rumination plus probable. A l'inverse, structurer ses journées, varier les contextes et s'exposer à des tâches qui demandent une présence attentive peuvent réduire l'emprise du mental. Et l'objectif est de rendre la rumination moins automatique, plus repérable et donc plus facile à désamorcer avant qu'elle ne s'installe durablement. En dernier lieu, relations. Émotions et auto-jugement sortir de la boucle culpabilité-anxiété, le livre montre que la rumination ne porte pas seulement sur des faits, mais sur l'interprétation de soi et des autres. Beaucoup de pensées en boucle prennent la forme de critiques personnelles, de culpabilités ou de relectures interminables de d'échanges relationnels. Cette autocritique peut aggraver l'humeur et renforcer l'anxiété, tout en poussant à chercher des garanties dans l'analyse, ce qui relance la rumination. L'auteur invite à différencier responsabilité et auto-accusation. Elle encourage à reconnaître ses émotions sans en faire une preuve que quelque chose d'un mal en soi. Sur le plan relationnel, le ressassement peut aussi empêcher de communiquer clairement. Parce que la personne vit la scène des dizaines de fois dans sa tête sans demander d'éclaircissement ou exprimer un besoin. Le livre propose alors une orientation plus directe. Clarifier ce qui est réellement en jeu, distinguer suppositions et faits, et choisir des échanges qui font avancer plutôt que des dialogues intérieurs épuisants. Cette perspective aide à réduire la charge émotionnelle et à développer une posture plus équilibrée ou en accepte à l'imperfection, tout en se donnant des moyens concrets de s'apaiser et d'améliorer ses relations. En conclusion, ces femmes qui pensent trop adressent en priorité à celles qui se reconnaissent dans le ressassement, l'insomnie liée aux pensées en boucle, la difficulté à se concentrer et la sensation de être envahi par des scénarios négatifs. Il peut également être utile aux proches qui veulent comprendre ce mécanisme et éviter les conseils simplistes du type Harrod d'y penser. Le bénéfice principal est de transformer un vécu diffus en un processus identifiable. Nommer la rumination, repérer ses déclencheurs et comprendre ses effets sur l'humeur permet déjà de diminuer la honte et la confusion, sur le plan pratique. L'ouvrage apporte des pistes pour passer d'une analyse interminable à des stratégies plus efficaces, centrées sur l'attention, l'action et des routines protectrices. Sur le plan intellectuel, il se distingue par un positionnement à la croisée de la psychologie scientifique et du guide concret, avec une volonté de rendre accessibles des idées issues de la recherche sur la régulation de l'humeur, dans un paysage de livres de bien-être parfois très généraliste. Celui-ci se démarque par sa focalisation nette sur un problème précis et par une approche qui vise moins la pensée positive que la sortie de la spirale répétitive. C'est un livre pour reconquérir du calme mental, et surtout de la marge de manœuvre dans la vie quotidienne. Si vous souhaitez soutenir Suzanne Nolen Auxema, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt !